Je suis Jérôme Sauter, je suis directeur artistique du Centre d'art Guinzégal. J'y travaille depuis environ une quinzaine d'années. Auparavant, j'ai eu une formation, on va dire, plutôt artistique, parce que je suis issu d'une école d'art qui se trouve à côté de Lausanne, en Suisse. Mais j'étais assez vite aspiré par le projet de Guinzégal, et après, c'est une aventure qui dure depuis un petit moment déjà. Ouais.
Et moi, je suis Solange Reboul, je suis co-directrice du Centre d'art. J'y travaille depuis une grosse dizaine d'années. J'ai également fait la même école que Jérôme Sauter en Suisse. Donc un parcours à la base artistique et après qui s'est transformé peu à peu pour accompagner le projet du Centre d'art Guinzégal.
Et ce Centre d'art Guinzégal, il a plusieurs lieux en tête. Moi, j'ai en tête Plouas, j'ai en tête Guingamp, dans différents locaux. Est-ce que vous pourriez en faire un rapide historique?
Oui, en fait, le nom de Guinzégal vient de Plouas, effectivement. Donc, c'est le nom du port à Pieux à Plouas, où on a ce très vieux système pour amarrer les bateaux, où en fait, on plante un arbre avec son système racinaire. Et voilà, en fait. Voilà, c'est parti de là, parce qu'en fait, le créateur de l'association, donc Paul Cotin, était originaire de Plouas, et on a commencé, en fait, il a commencé l'association à Plouas, et elle s'est développée un petit peu à Plouas, et après, on a été, aspiré vers les années 2010, vers Guingamp, pour plusieurs raisons, parce qu'en fait, je pense que c'est déjà... on a fait une exposition à l'espace François Mitterrand qui s'appelait Nécessaire Europe, sur l'invitation de l'adjoint à la culture de l'époque et de la maire, Annie Le Héroux, qui était aussi députée, et qui a, je pense, très vite compris l'ambition de Guinzégal. Et je pense qu'elle a tout de suite eu en tête aussi qu'elle avait ce lieu, quoi. C'est-à-dire que nous, on a eu l'idée de tout de suite, dans les années 2010, on a commencé à avoir l'idée de créer un lieu physique, en fait, pour Guinzégal, parce qu'avant, Guinzégal était une association donc, qui invite, je vous fais un peu le résumé quand même, qui invite des artistes à travailler en résidence, qui organise des expositions à la fois en France, à l'étranger et aussi en Bretagne, évidemment. Toute la partie médiation, elle est venue bien plus tard, elle est venue plutôt depuis qu'on est à Guingamp. Et y a aussi la partie édition qui est arrivée très vite aussi depuis, je pense, 2006, où on a fait les premiers livres. Donc on avait déjà une sorte de rayonnement comme ça qui pouvait aller assez loin, mais sans avoir sur place physiquement un lieu très précis. À Plouas, on a utilisé un lieu qui s'appelait l'espace Hermine à Plouas pour faire des expositions, mais c'était toujours un lieu qu'on partageait. Enfin voilà, il y a eu plusieurs choses comme ça, mais avec l'idée aussi au départ, je pense que de ne pas avoir un lieu fixe et de placer l'énergie aussi dans la création et voilà, parce qu'il y a aussi toujours quand on a un lieu fixe, il y a toujours aussi la peur de s'y enfermer aussi, ce qui est... Voilà, ça c'est...
Pour le coup. Et donc ensuite, vous êtes installé dans des locaux de la mairie, et j'ai envie de dire à 30 mètres d'un mur, d'un très grand mur.
Voilà, en fait, à partir de 2010, on s'est installé dans ce qu'on a appelé le studio Guinzégal, où on a, de manière un peu très artisanale, installé à la fois nos bureaux et un petit espace d'exposition. On a réalisé plusieurs expositions dans l'espace Mitterrand, qui est une ancienne chapelle qui est très belle, qui nous convenait très bien, mais qui avait aussi des contraintes techniques, c'est-à-dire que comme c'est une ancienne chapelle, on ne pouvait pas l'utiliser toute l'année parce que pour des questions d'humidité, de température qui ne sont pas constantes, et en fait, là, pour montrer des photographies, il faut qu'on puisse... assurer une certaine stabilité de l'humidité, de la température, et c'était pas le cas là. Donc en fait, il aurait fallu faire des énormes travaux si on avait voulu vraiment utiliser ce lieu toute l'année. Et c'est pour ça aussi que dans la prison, c'était important de construire un lieu qui soit aux normes muséales. Qu'est-ce que ça veut dire être aux normes muséales? Justement, ça veut dire d'avoir des centrales d'air qui permettent de réguler cette température et cette hygrométrie. Mais ça, c'est pas juste pour le bien-être, mais c'est aussi pour pouvoir emprunter des œuvres à des collections importantes, par exemple en Allemagne ou en Suisse, ou au Centre Pompidou, peu importe, en fait, qui nous demandent des conditions de sécurité en fait, qui sont assez drastiques, c'est-à-dire d'avoir 55% d'humidité et 20 degrés ou 19 degrés de manière constante. Et si on n'a pas ça, si on ne peut pas leur prouver qu'on a ça, ils ne prêteront pas des œuvres.
Et donc, l'idée d'installer Gunzegal dans la prison, vous vous en souvenez? Vous vous souvenez de ces moments clés aux alentours des années 2012-2013?
Oui, moi je me rappelle de la réunion qu'on a fait avec Annie Le Héroux, qui était maire de l'époque, et cette visite du bâtiment. Maintenant, c'était encore assez hypothétique à l'époque, mais oui, le bâtiment, il était dans un état très dégradé. Très très dégradé, parce qu'en fait il avait été abîmé par le feu, je crois, dans les années 90. Et il y avait
2004.
Juste la... D'accord, 2004. Et donc il y avait juste la toiture qui avait été refaite, mais tout le reste était vraiment. Il n'y avait plus de fenêtres, il y avait de la végétation partout, des déchets. Enfin voilà, c'était vraiment un état de ruine, quoi. Mais avec un potentiel. Avec un potentiel, alors on avait contacté un cabinet d'architectes qui a fait une étude de faisabilité, ce qui est en fait une étude où il comparait en fait les différents sites, parce qu'en fait il y avait l'idée de Plouas, il y avait l'idée de Guingamp, et en fait il est assez vite apparu que Guingamp était le site le plus favorable pour plusieurs raisons. D'abord parce que un des sites sur lequel on lorgnait à Plouas était en zone littorale et que la possibilité de construire était vraiment peu probable. Aussi parce que à Guingamp il y avait cette gare TGV qui est aussi une comme pour l'INSEAC par exemple, qui est une raison très importante de pouvoir accueillir des gens qui viennent de partout en France, et ça c'est vraiment une chose importante, et surtout il y avait une volonté politique qui n'était peut-être pas aussi forte, même si on était bien intégré à Plouas, mais je pense que l'ambition n'était pas la même, ou elle n'était pas comprise de la même manière. Et ça, vraiment, à Guingamp, on a vraiment eu l'impression qu'on était sur la même longueur d'onde, même si après, il a fallu... ça a pris un peu du temps entre le moment où on a commencé à en parler en 2010-2011 et le moment où vraiment ça s'enclenche, il y a quelques années, parce qu'on est dans une petite ville et que c'est un projet très ambitieux. À l'époque, on parlait pas de l'INSEAC, hein, c'est pas une chose. Donc, on parlait que de Gunzegal qui devait intégrer ce lieu avec un projet à plusieurs millions d'euros, donc qui pouvait aussi faire polémique, voilà, pour des raisons qu'on peut comprendre.
Et ensuite, c'est la phase donc des travaux avec donc l'équipe municipale, le cabinet d'architectes Arten, Christophe Bâtard, l'architecte en chef des monuments historiques, mais aussi en charge de ce dossier. Et en 2019, c'est l'inauguration. Mais comment vous vivez ce transfert? Est-ce que vous êtes associé à cette réalisation des lieux pour vous?
En fait, nous, on avait des demandes assez fixes, c'est-à-dire d'une certaine surface, des demandes techniques de la centrale d'air, des choses comme ça. Et après, l'architecte, il a fait presque ce qu'on pourrait dire une contre-offre, en fait, parce qu'en fait, on n'a pas tout à fait ce qu'on aurait imaginé avoir, parce que comme c'est un monument historique, il y a beaucoup de contraintes, c'est-à-dire le bâtiment d'exposition, par exemple, il y a une hauteur, il est presque invisible de l'extérieur, on aurait bien voulu qu'il soit un peu plus haut, l'architecte aussi, mais le ministère a souhaité qu'il soit plus discret. Enfin, il y a pas mal de petites contraintes. Il y a des contraintes de surface aussi, par exemple, parce qu'il s'implante dans une cour qui fait 200 mètres carrés et il ne pourra pas faire 400. Quoi. Voilà, c'est des choses évidentes, mais c'est aussi, c'était quand même une certaine complexité de s'installer dans une prison plutôt que dans un champ où on aurait pu construire n'importe quel bâtiment contemporain.
Et en termes de médiation, du coup, à partir de 2017, vous avez commencé à communiquer sur votre future installation. Vous avez préparé ce temps fort dont on se souvient en avril 2019.
Oui, alors c'est vrai que les travaux ont pris un peu de retard. Voilà, on a reporté plusieurs fois l'inauguration, mais ça s'est fait, très bien fait. On avait décidé d'inaugurer avec une exposition qui retraçait l'ensemble du travail de résidence qu'on avait porté depuis une grosse dizaine d'années. Et avec les artistes, vraiment, pour donner en fait la parole aux artistes et la visibilité aux artistes. Après, il s'avère que ce lieu est un formidable outil en fait pour partager voilà, notre passion sur l'image photographique. On peut vraiment mettre en place des ateliers de la médiation de manière récurrente tout au long de l'année, chose qu'on ne pouvait pas faire avant vu que l'espace François Mitterrand devait être fermé en hiver. Donc l'accueil des classes, des groupes et le suivi de notre public voilà, peut se faire de manière beaucoup plus qualitative, quoi. Donc, il me semble que c'est vraiment un lieu qui fonctionne très bien. On a beaucoup de monde à venir. Et voilà, et l'intérêt du public est de plus en plus forte.
Dans vos choix d'artistes, j'ai envie de dire un peu associés, il y a peut-être deux noms qui reviennent, qui semblent très liés à l'univers carcéral, ou en tout cas à l'univers de la prison de Guingamp. C'est Maxence Riflet et Raphaël Dallaporta. C'est des choix que vous avez faits.
Oui, alors le fait d'être implanté dans une prison n'est pas une chose neutre, hein, donc même si on n'a pas l'idée d'axer toute notre programmation là-dessus, c'est pas vraiment le projet, mais on peut pas faire abstraction du lieu, donc à un moment donné il est question qu'on s'empare aussi de ce sujet, parce que beaucoup d'artistes l'ont traité, alors d'une manière plus ou moins... Enfin, dans des formes vraiment très différentes. Donc Maxence Riflet, c'était un artiste justement qui avait fait un gros travail sur cette prison en France, qu'il a complété ici par un travail en résidence où il a recherché dans des archives les plans, etc. Enfin, des choses qui sont visibles d'ailleurs aux archives départementales. Voilà, Raphaël Dallaporta, lui, il a fait un autre projet où il a plus ou moins suivi la mue, ce qu'il a appelé la mue de cette prison, qui est passée de l'état de ruine à l'état d'un lieu ouvert au public, en ayant placé pendant plusieurs années des caméras comme des pièges photographiques en fait, qui ont capturé des images à intervalles réguliers sur plusieurs années. Donc il y a plusieurs dizaines, peut-être centaines de milliers d'images de ce moment de chantier en fait. Voilà.
Et en termes de médiation, de public qui entre, d'élèves qui entrent, quels sont les retours de ces personnes ?
Alors je crois que clairement le bâtiment est impressionnant. Déjà, quand on rentre dans la cour de la prison, on est touché par le bâtiment et par ce patrimoine. Donc pour nous, clairement, ça s'additionne. En fait, avec l'intérêt que les spectateurs, enfin que le public peut porter au centre d'art, parce que du coup, il y a ce côté patrimonial qui est en plus en fait des expositions et de tout ce qu'on peut proposer. Donc, vu la fréquentation qu'on a eue, en tout cas en 2019, sur la première année, parce qu'après c'était un peu plus compliqué à cause de la fermeture. On a reçu presque 20 000 personnes, donc ça prouve que voilà, il y a un intérêt.
Et du coup, une audience qui est presque décuplée par la conjugaison de votre travail et du lieu.
Ouais, je pense qu'en fait, il y a quelque chose de très intéressant dans cette implantation, c'est qu'en fait, si on regarde Guinzégal sur internet ou je sais pas quoi, on pourrait imaginer que peut-être que c'est une programmation sur l'art contemporain ou la photographie contemporaine qui pourrait être peut-être élitiste ou je sais pas comment on pourrait le qualifier. Enfin, je pense que je suis pas d'accord avec ça, mais ce qui est intéressant là, c'est que souvent on a des gens qui mettraient jamais les pieds dans un centre d'art contemporain et qui arrivent un petit peu par hasard aussi. Donc ça c'est un cadeau aussi, c'est un cadeau de ce lieu. Et voilà, ces gens tout d'un coup se retrouvent dans une exposition et avec la médiation qui convient, ils arrivent à rentrer dans des expos, à les apprécier. Et ça, je trouve que c'est une grande chance, justement, c'est que ce lieu n'est pas un lieu d'exclusion, justement. C'est un lieu, c'est l'inverse, quoi.
Et un lieu d'inclusion aussi pour des scolaires ?
Oui, c'est ça. Tout le travail qu'on réalise autour de l'accueil du public favorise cette mixité et cet accueil du public, quoi.
Et donc, sur une année, entre guillemets, habituelle, combien d'élèves, à peu près, viennent au centre d'art?
Alors, par exposition, je dirais plutôt, parce que on accueille entre 40 et 50 classes, mais on a de plus en plus de demandes, et d'ailleurs, voilà, pour nous, répondre à ces demandes est vraiment très, très importante, et on développe pour pouvoir accueillir et pour que l'expérience de la visite d'exposition soit un peu différente et ludique et que les jeunes aient envie de revenir, on développe pas mal d'outils différents basés sur le jeu. Et alors évidemment, on a fait un escape game parce que ben voilà, les lieux nous favorisent ce type d'expérience, et d'ailleurs les jeunes adorent jouer à l'escape game pour rentrer dans les expositions.
Et du coup, on va terminer sur l'année 2021.
Oui, moi, j'ai vraiment très hâte de profiter de ce lieu sans travaux, avec rempli de vie et de propositions.
Et d'étudiants.
Et d'étudiants.
Des voisins nouveaux qui vont vous rejoindre dès septembre.
Non, non, on se réjouit de l'implantation de l'INSEAC. Je pense que c'est vraiment un projet qui est en complémentarité avec le nôtre, et il y aura plein de passerelles à imaginer. Je pense que tout est possible.